Il y a plusieurs dossiers dans le monde de la sécurité, la cybersécurité surtout, pour nous inquiéter, pour nous renseigner. Évidemment, on parle souvent avec Steve Waterhouse, qui est un ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense. Bonjour, M. Waterhouse.
Bon matin à vous deux.
Alors, M. Waterhouse, c'est drôle parce qu'Isabelle, tantôt, me parlait du shutdown américain puis de la paralysie de l'administration américaine puis de l'impact que ça peut avoir sur les agences de contrôle des aliments. Ça peut aussi avoir des incidences très importantes sur la sécurité des systèmes informatiques aux États-Unis?
Ben oui, parce qu'ils veulent pas, malgré que c'est des machines qui sont supposées de travailler tout seul une fois qu'ils sont programmées, imagine-toi que il y en a de ces systèmes informatiques-là, des sites web où ce qu'il y avait besoin d'entretien, renouvellement de certificats électroniques, mise à jour, etc. Ce ne sont pas considérés des services essentiels et de ce fait, il y a des sites qui ne sont plus en ligne présentement, alentour d'une centaine.
Ah ouais.
Qui, à ce moment-là, laissent les gens en manque d'informations parce que aussi, ça, c'est qu'est-ce qui va toucher de plus en plus de gens dans les prochaines années, même à partir de maintenant, c'est que tout le monde se fait pointer vers des sites pour aller chercher de l'information, alors qu'avant, c'était distribué différemment, ben, pour pas dire en papier. Alors, des sites web, c'est vu comme une ressource essentielle pour surtout, ben, si on prend l'exemple tantôt de contamination de l'eau, ben, les ministères vont diffuser l'information, à informer la population via principalement ces médiums électroniques-là. Et s'ils sont pas disponibles, ben là, les gens se retrouvent en absence d'information.
OK, c'est comme si, par exemple, le site de telle ou telle municipalité n'était plus accessible parce que les gens l'administration est paralysée. Ou par exemple, le site de la Société de l'assurance automobile du Québec, t'as besoin d'avoir des informations concernant tes plaques, mais le site est planté.
Oui, exactement, parce qu'il y a des éléments techniques qui ne sont plus disponibles parce qu'il y a besoin d'un opérateur, il y a besoin d'un intervenant, et celui-ci, ben, il n'est pas payé. C'est pas qu'il est en grève, il n'est pas payé, fait qu'il ne rentre pas, puis il n'y a personne qui s'interpose pour être capable de garder ça à jour, parce que c'est pas, encore là, c'est pas, du point de vue du travailleur, c'est pas nécessairement essentiel, mais du point de vue de la population, ça l'est, et c'est ça qui, à un moment donné, va peser beaucoup dans la balance, au même titre que quand on parle qu'il y a des attaques qui dérangent, des attaques de denier de service qui dérangent les services bancaires, ben, on se rend compte aujourd'hui, en 2019, qu'il n'y a plus de services au comptoir, mais bien souvent disponibles. Alors, donc, on survit vers les plateformes numériques, mais les plateformes numériques, il faut qu'ils demeurent disponibles, et c'est souvent là que le bas blesse.
Puis après ça, le citoyen va être pointé du doigt s'il ne peut pas, par exemple, aller payer ses comptes ou des choses comme ça. C'est lui qui va être la victime là-dedans,
ouais,
dans le fond.
C'est ça.
Voilà le singe, c'est lui qui l'a sur ses épaules. Quoique, dans certains cas, que c'est arrivé des... Si je prends l'exemple des revenus Canada, il y a quelques années, quand il y a eu un bug qui a été découvert, ben ils ont été conciliants puis ils ont laissé 2 semaines de plus pour que les gens puissent à ce moment-là s'ajuster parce que les services informatiques avaient été mis hors ligne pendant 2 jours et demi pour régler le problème potentiel. Et après coup, ils ont mis ça en fonction puis oui, ils ont extensionné la date. Fait que s'ils sont intelligents dans l'approche, ils vont être conciliants, plus flexibles, ça c'est parfait. Mais il y en a d'autres qui vont dire non, ça a tout planifié des affaires. Fait que oui, ça peut apporter des arguments.
Il y a la compagnie Bell qui cherche à marchander les données personnelles de ses clients. Ça a fait de la manchette aussi beaucoup cette semaine, M. Waterhouse.
Oui, Paul Raphaël. Puis ça, les cheveux m'ont dressé sa tête. Puis tu sais que j'ai mangé beaucoup de cheveux.
Vous avez la même coupe que Marc Boilard en passant, c'est ça?
Oui, exactement. On fait du froid de coco quand on se voit. Là, ça, c'est pas pire. Mais c'est pour ces gens qui ont des idées en passant, pas plus que ça.
Okay.
Mais effectivement, quand je vois des choses comme ça, là, ça vient me chercher parce que aujourd'hui, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais les compagnies, les grandes compagnies, puis ça, c'est pas juste Bell, je veux dire, toutes les compagnies de ce monde cumulent l'information des gens et, puis je leur ai dit souvent, c'est la monnaie d'échange du 21e siècle. C'est pas le pétrole, c'est plus l'or, ça c'est fini. C'est vraiment l'information personnelle. Et pour ce faire, Bell, il y a quand même une bonne portée. Là, je veux dire, aujourd'hui, ils travaillent avec quoi, les données personnelles chez Bell? Ben, je veux dire, c'est les habitudes de consommation télévisuelle, cellulaire, et tous les autres services connexes qu'il peut y avoir. Et puis ça, c'est les échanges de textos, les échanges de boîtes vocales, combien de temps que la personne reste au téléphone. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on se doute pas qu'on fait à chaque jour, eux vont prendre ces données-là et après ça, ils font juste, selon la loi, ils enlèvent le nom de la personne et ils peuvent à ce moment-là normaliser les données et ça devient des données échangeables envers toutes sortes de compagnies. Ce qui est fatigant là-dedans, ça peut être recoupé avec des données à l'extérieur et ce qui, à ce moment-là, peut pointer vers l'identité d'une personne très spécifique dans l'exploitation des habitudes ou peu importe le profil qu'on utilise de la personne.
Mais je lisais dans le journal que, à quelque part, Bell offrait la possibilité à ses clients de partager ou de ne pas partager avec eux leurs informations personnelles. C'est sûr que tout est dans la façon qu'ils font, là, tu sais, les fameux normes de conditions patentes, le super longue de 30 pages qu'on lit jamais.
Ouais.
C'est un peu croche, mais il demeure que tout d'un coup, ça devient un peu la faute de l'utilisateur s'il accepte de partager ses données avec Bell, non?
Ah ben oui, ils vont formuler ça comme ça. Puis tu sais, quand on parlait tantôt, c'est la faute à rien qui, là. Les entreprises, ils ont les ressources, le temps et la motivation de pouvoir s'en dégager. Puis oublie jamais une affaire, quand tu utilises le service, ben c'est ta faute s'il arrive quelque chose de pas correct. Mm-hmm. C'est pas eux autres qui ont mal programmé leurs histoires. Puis je me suis heurté bien souvent avec des compagnies technologiques de même pour leur faire comprendre, mais non, mais c'est ton staff qui a fait une mauvaise programmation, puis ton service, il rend ça pas correct. Mais ça, c'est évidemment pointu quand tu vas aller prouver ça.
Puis ce qui finit par arriver aussi souvent, c'est qu'après, si tu n'acceptes pas les conditions que t'imposes, ben tu peux pas faire la moitié des tu perds la moitié des possibilités là. Tu sais, je me sais qu'avec un téléphone cellulaire, si t'acceptes pas les termes et conditions de ton fournisseur, je veux dire, tu peux pas l'utiliser ton téléphone là. Tu sais.
Et tu me fais penser justement quand on veut utiliser des applications XYZ sur nos téléphones portables, souvent on prend pas le temps de lire, comme tu disais, les petits caractères de l'entente de confidentialité. Mais je sais pas si tu l'as vu aussi celle-là, mais t'as beaucoup d'applications qui documentent davantage ce que l'utilisateur se doute pas. Et comme tu dis, quand t'acceptes, ben là tu lui donnes permission de prendre toute l'information, ta géolocalisation, partout où tu vas, puis ils peuvent s'en servir à leur fin. Fait que oui, faut comme consommateur, on est pogné avec le fardeau de se documenter, de lire davantage et de voir à ce moment-là si c'est correct ou pas, qu'on accepte ou pas. Et si on a des doutes, si on n'est pas content de la façon que ça se passe, ben il y a toujours des recours pour porter plainte, soit au commissaire de la vie privée du Canada ou bien au commissaire d'accès à l'information du Québec, qui vont prendre votre plainte et vont être capables d'établir si on a été dupé ou bien si on n'a juste pas lu comme il faut les dites ententes qui sont présentes.
Parce qu'en plus, en tout cas, moi, j'ai toujours un doute si j'accepte pas. Est-ce que vraiment ils vont pas utiliser mes données? Ça, c'est une autre question peut-être, mais on dirait que la bonne
mais
foi
la question
là-dedans,
se pose.
Je suis pas toujours certaine, en fait.
Ouais, la question se pose. D'ailleurs.
Tu as raison, Isabelle, parce que aujourd'hui, là, assume qu'ils vont le prendre. Ils vont prendre l'information parce que c'est à leurs avantages, puis eux autres, c'est lucratif.
Ben oui.
Ben, c'est ça. Quel recours un petit utilisateur peut avoir contre une compagnie comme Bell ou comme. D'ailleurs, on reste dans le partage de données parce que moi, j'ai été bien surpris de voir ça. Il se tenait cette semaine le CES 2019, oui. Le grand congrès de nouveaux gadgets, nouvelles technologies. C'est pas mal le plus grand congrès de nouvelles technologies sur la planète, là. Ça avait lieu cette semaine et des milliers de choses qui ont été discutées, là, il y a la collecte d'informations, de nos informations personnelles par les automobiles, M. Waterhouse.
Oui, puis on parle de d'automobile. On pourrait prendre le reste de l'avant-midi puis jaser de tous les cossins qui existent. Puis, on a parlé d'une autre émission sur les objets sexuels, rappelle-toi.
Oui, et c'est vrai.
Malheureusement, au CES, il n'y a pas de catégorie parce qu'il y en a qui auraient mérité des prix parce qu'ils sont créatifs. Si on vient à un vol de données informatiques, ça n'est où ce que pas de données informatiques, des données d'usage personnel. Ouais. Les véhicules automobiles aujourd'hui devront avoir beaucoup plus d'intelligence à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus juste dire oh, on achète un véhicule automobile, quatre roues, un body, un volant, puis on s'en va. Non, non. Il y a beaucoup de télématiques qui vont être impliquées. Télématique veut dire toutes les données qui vont, à ce moment-là, aider à calibrer le véhicule, la qualité, pis etc., pour aller jusqu'au véhicule autonome éventuellement. Et tout ça, vu que ça va être des données en temps réel, qui est de plus en plus en temps réel, ben les fabricants, eux autres, sont contents parce qu'ils vont dire ça va être la couverture avec laquelle ils vont s'en servir. Ah, c'est pour améliorer le produit, c'est pour votre sécurité. Oui, jusqu'à un certain point. Mais le restant des données qu'ils vont cumuler sur comment vite qu'on freine, comment qu'on accélère. Tu sais, un peu, il y a eu des annonces aussi pour les assureurs qui veulent à ce moment-là cette information-là parce qu'ils peuvent calibrer un peu la police d'assurance en fonction du type de conducteur qu'on est. On conduit tranquillement, on suit les lois, les règlements. OK, vous allez avoir 30% de rabais. Si ils réalisent qu'on conduit en fou furieux, ben, ils nous imposent des pénalités, des primes d'assurance plus élevées. Ben, le fabricant automobile va procéder de la même façon. Puis à ce moment-là, il va pouvoir à ce moment dire désolé, tu as utilisé ton véhicule d'une telle façon. On ne reconnaît pas qu'est-ce que tu réclames comme étant un bris durant la garantie. Ça va aller jusque-là parce qu'à ce moment-là, ils vont avoir des données palpables avec lesquelles ils vont nous lancer ça dans le visage.
C'est pour ça que Paul Raphaël garde sa voiture 1996.
Et voilà, c'est là que je m'en allais. Félicitations.
Je suis démasqué. Vous venez de dire au grand jour mon truc pour éviter d'être espionné par les différentes compagnies.
T'es incognito.
Ouais, en plus, des fois, je ferme mes lumières aussi pour être sûr que personne ne me voit. En terminant, M. Waterhouse, souvent, puis je m'amuse en ouverture presque à toutes les fois qu'on se parle à dire qu'à la fin de chacune de vos interventions en ondes avec nous, je finis plus inquiet qu'avant l'intervention en question. Mais là, vous avez une bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle dans le monde de la cybersécurité, c'est que pour une fois, il y a un hacker qui a été puni par la justice.
Oui, puis je l'ai cherché, celle-là, pour la faire juste pour toi, parce que c'est important qu'on amène du positif dans notre fin de semaine. Oui. Et c'est un événement qui est arrivé vraiment là, dans quelques années, en 2014, où ce qu'il y a un hôpital, là, quelques hôpitaux à Boston, qui ont été impactés par une attaque de déni de service. Attaque de déni de service, ça veut dire qu'on gèle les services parce que on submerge les services de requêtes banales qui font en sorte que les services informatiques plantent et sont pas disponibles. Ouais. Pendant une semaine et demie, ces hôpitaux-là, ils n'étaient pas disponibles. Le service informatique, il n'était pas. Et tout ça dans le cadre d'une petite fille qui a eu un mauvais traitement à l'hôpital et un hacker qui s'apprêtait d'être du collectif Anonymous s'en est pris à ces hôpitaux-là pour lui faire comprendre « Vous n'avez pas traité la fille correctement. » OK. Socialement, okay. C'est peut-être un geste qu'on peut saluer, mais de l'autre côté, c'est criminellement responsable parce qu'il y a beaucoup de recherches qui n'étaient pas disponibles pendant ce temps-là. Fait que plus tard, ce qui est ironique dans ce cas-là, le hacker il a voulu se sauver par un bateau qui a loué vers Cuba pour se faire pogner par la justice américaine. Ça n'a pas bien été son affaire. Il a lancé un SOS, s'est fait récupérer par un bateau de Disney, emmené en justice. Puis là, ben oui, ils l'ont repéré le bonhomme, ils l'ont condamné pour 10 ans pour avoir commis ces méfaits-là.
Donc, c'était un bon criminel sur Internet, mais disons que quand il arrivait dans le vrai monde, c'était un peu un moins bon bandit. Là.
Ben, c'est toujours interprétable. Hein? C'est comme ça que souvent arrive. Pour un, ça va être un justice. Fantastique, on se réfère à lui, puis à l'autre côté, il va violer des lois, puis
c'est
comme ça que c'est pas correct nécessairement toujours ça donner de même.
Oui, puis ce que je veux dire, de toute façon, c'est surtout que il est habile comme bandit quand il est sur Internet, mais un peu moins habile quand il vient le temps physiquement de disposer de sa propre personne. T'sais. Merci beaucoup, M. Waterhouse, d'avoir pris du temps le samedi pour nous.
Ça m'a fait plaisir, bonne fête.
OK, à la prochaine, bye bye. Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. On s'arrête pour une courte